Alors avant de commencer cette instruction sur le péché, je voudrais d'abord me présenter. Je suis l'abbé Bourrat. Je suis en poste à l'école Saint-Bernard de Courbevoie depuis, je commence ma 8e année. Je m'occupe donc de garçons depuis la CM, même si je m'en occupe pas beaucoup, jusqu'en terminale, où je m'en occupe un peu plus. Profitez bien de cette retraite pour, au début surtout, peut-être pour vous reposer. C'est un conseil qu'il faut vous donner pour ne pas se tromper dans la méthode de la retraite. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il faut faire une retraite, donc il va falloir penser à des choses sérieuses, peut-être faire pénitence ou autre chose comme ça. Il faut aussi se reposer, surtout avec ce temps de grande chaleur. Les organismes sont fragilisés. J'ai toujours en mémoire la parole écrite que j'ai lue d'un chartreux qui disait « Si Sainte Marie-Madeleine avait eu mal à la tête lorsqu'elle écoutait notre Seigneur à Béthanie, elle n'aurait pas profité de ses prédications, des prédications de notre Seigneur. » Alors bon, c'est un petit peu la même chose, toutes circonstances étant mises à part. Dans un premier temps, s'il le faut, profiter de ce temps aussi pour vous reposer, éventuellement aussi, bien sûr, pour nous consulter. On ne va pas voir le prêtre pour discuter, on va voir le prêtre pour demander conseil, pour régler parfois des questions qui peuvent être mises sous la lumière du Saint-Esprit pendant cette retraite. Et avec le conseil d'un prêtre, eh bien, on peut y voir aussi plus clair le bon Dieu se servant, bien sûr, de ces instruments que nous sommes pour vous aider. Alors, le péché. Vous avez médité jusqu'à présent les perfections divines et il peut paraître abrupt de regarder maintenant le péché. D'un côté, les grandeurs de Dieu sous bien des aspects, Dieu dans sa nature parfaite, spirituelle, sa toute-puissance, sa bonté, Dieu-providence, sa miséricorde. Et puis de l'autre, quand on parle du péché, nous-mêmes, notre révolte, notre orgueil, la créature qui ose se rebeller contre celui qui l'a faite, la créature qui ose dire non à son Dieu, qui, comme Lucifer, je ne servirai pas. Voilà un petit peu ce qu'est le péché. C'est une réalité que nous avons du mal à saisir. Nous savons ce que c'est parce que nous le commettons. Et pourtant, s'il faut le définir, s'il faut comprendre ce que c'est, ce que cela est, comme réalité, eh bien on a du mal. Alors, si nous avons du mal à comprendre ce qu'est le péché, eh bien, on peut déjà quand même essayer de le définir, mais surtout, parce qu'une définition sera un petit peu intellectuelle, un petit peu philosophique, donc ça manquera d'aspects concrets, et nous aurons du mal à en faire quelque chose, à le haïr, à le regretter. Donc, un autre aspect sera meilleur, sans doute, pour l'envisager, pour mieux le connaître, ce sera de regarder ce que Dieu fait du péché et ce que le péché nous fait aussi en nous. Alors, ce que c'est qu'un péché, on peut voir, une définition simple, c'est une désobéissance à la loi de Dieu. Bon, ça, c'est un point facile à comprendre. Mais qu'est-ce que c'est fondamentalement? Qu'est-ce que représente un péché? Parce que le péché, on le trouve dans différents actes qui sont complètement différents les uns des autres. Le péché, c'est un mal. Donc déjà, si on veut le comprendre, il faut le comprendre comme étant une sorte de... C'est un mal, de mal, donc. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mal? Qu'est-ce que c'est que le mal? Et ça, c'est déjà pas non plus facile à saisir. Les mots, il y en a trois sortes, on pourrait résumer. Il faut bien les distinguer pour ne pas justement errer sur cette question. Et de cette question, de la compréhension de cette question du mal découle beaucoup d'autres questions, bien sûr celle du péché, mais bien d'autres. Le mal peut être physique. Alors ça, on sait ce que c'est. On se fait piquer par un moustique, on se tord une cheville, on a un accident, bref. Un tremblement de terre dont on est victime. C'est un mal physique, c'est-à-dire ce sont les lois de la nature, notre faiblesse corporelle qui subit un inconvénient qui nous fait un mal. Ce n'est pas le péché. Ça. Le péché n'est pas un mal physique. Le péché peut entraîner un mal physique. Si je tue mon voisin, je lui fais un mal physique. Chez lui, c'est un mal physique, pas chez moi. Chez moi, c'est un mal moral. Donc on va en parler. Le péché est un mal moral. Avant de parler du mal moral, je vous parle aussi du mal qu'on dira psychologique, c'est-à-dire dans notre âme. Par exemple, on ressent la tristesse pour un événement ou pour un autre. Il y a donc un mal que l'on subit dans notre âme, et c'est un mal psychologique. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de péché. Ça n'est pas à proprement physique, parce que ça peut toucher aussi notre intelligence, notre volonté, ces mots psychologiques. Par exemple, l'ignorance. L'ignorance est un mal pour l'intelligence, c'est une absence d'un bien qui lui est peut-être dû, la vérité. L'intelligence est faite pour la vérité, et s'il y a une ignorance qui devrait être comblée, eh bien c'est un mal psychologique. Il n'y a pas de faute, alors il peut y avoir une faute sur le... si l'ignorance est coupable, mais donc ça c'est le mal psychologique. Et puis il y a le mal moral. Alors comprenons bien ce qu'est le mal moral, parce que évidemment le péché en est un. Le mal moral, comme son nom l'indique, est moral, ce qui touche à notre fin, à notre finalité. C'est-à-dire que si nous vivons conformément à notre fin, ce pourquoi nous sommes faits, eh bien nous vivons bien moralement. Nous faisons du bien moralement. C'est-à-dire qu'il y a conformité entre notre agir et le but de notre agir, ce pourquoi nous sommes faits. Nous sommes faits pour Dieu. Donc lorsque nous agissons conformément à la volonté de Dieu, conformément à l'ordre divin, nous agissons bien. Et donc nous agissons bien moralement. Et nous avançons vers notre fin, nous avançons vers notre but, nous avançons vers Dieu. Et si nous refusons cette avancée vers Dieu, cette avancée vers notre fin, par définition, nous nous en éloignons. Et si nous nous en éloignons, nous nous privons du bien qui était dû à notre être et à notre agir. Donc nous nous privons du bien qui nous était dû, et c'est la définition même d'un mal, qu'être la privation d'un bien. Alors voilà un petit peu, encore une fois je vous lisais cette définition, mais elle nous aide quand même à comprendre ce qu'est le péché. Le péché, c'est un mal moral. C'est une privation de la finalité de notre agir, et donc un éloignement, c'est la même chose mais dit de la façon inverse, un éloignement du but de notre vie. Nous nous éloignons de ce pourquoi nous étions faits. Et c'est bien un mal. Et c'est un mal qui touche notre agir, donc un mal moral, un mal d'éloignement de notre fin. Alors, bien sûr, c'est Dieu qui est notre fin. Donc lorsqu'on s'éloigne de Dieu, lorsqu'on refuse de dire oui à Dieu, eh bien nous nous privons de Dieu. Alors il y a des degrés divers. Il y a des péchés qui sont graves, et des péchés qui sont plus véniels, moins graves, enfin, qui ne sont pas graves, au sens où qui ne nous privent pas définitivement de l'obtention de cette fin, mais qui sont quand même des éloignements, on s'écarte de la voie de la fin. Le péché a ceci de particulier, le péché en l'homme ou le péché dans l'ange également, les deux êtres qui connaissent leur fin, puisque nous avons ceci en commun avec les anges, C'est le propre des êtres qui ont été créés avec la liberté, avec l'intelligence, une liberté, une volonté. C'est que nous connaissons notre fin. Nous savons ce pourquoi nous sommes faits. Ce qui n'est pas le cas des animaux, des plantes, ou encore moins des minéraux. Mais nous savons ce pourquoi nous sommes faits. Et donc, si nous nous éloignons de ce pourquoi nous sommes faits, c'est en toute connaissance de cause, en toute liberté. Alors, pas forcément pleine connaissance, pas forcément pleine liberté, on en reparlera tout à l'heure, sur les conditions du péché grave, c'est de faire justement un acte en toute connaissance de cause et en plein consentement, c'est-à-dire on sait parfaitement ce qu'on fait et on le veut parfaitement. Et il faut qu'il y ait évidemment une matière grave dans cela. Et ce sont les trois conditions du péché mortel, je le redirai rapidement tout à l'heure. Mais comprenez bien que ce mal moral qu'est le péché, c'est donc un mal qui... Pourquoi il est défini comme un mal? Parce qu'il nous prive de Dieu. En tout cas, il nous éloigne de Dieu alors que nous sommes faits pour Dieu. Et c'est en cela que c'est un mal. Et c'est évidemment le plus grave des maux. Le mal physique, bien souvent, nous n'y pouvons rien et il est toujours limité. Même si on peut avoir des douleurs longues et maladies longues, mortelles même, ça ne touche que notre corps. Même si ça peut avoir des conséquences sur notre esprit, sur notre âme, mais il n'y a pas de conséquences vis-à-vis de Dieu. Le mal psychologique, même chose. Le mal moral est grave. J'allais dire, sans parler de péché grave, c'est grave parce que c'est véritablement un refus de notre finalité. C'est un refus de celui pour qui nous sommes faits, par qui nous sommes faits, Dieu, et pour qui nous sommes faits, Dieu toujours. Il y a donc quelque chose dans le péché, dans cette révolte du péché, de quelque chose de choquant, parce que c'est véritablement le refus d'un ordre voulu par Dieu, d'une finalité voulue par Dieu, et pour qui nous prenons-nous de vouloir ainsi mettre un obstacle, une opposition à cette harmonie, à cette perfection d'ordre que Dieu a voulu. Imaginez un bouton de fleur, un bouton de rose qui saurait, ce qui n'est pas le cas de la rose, qu'il est fait pour fleurir et qui refuserait de fleurir, qui aurait la possibilité de refuser de fleurir. Alors, ce qui ne peut pas exister dans le domaine naturel, eh bien, existe pour nous. L'homme sait qu'il est fait pour Dieu et il refuse de fleurir, c'est-à-dire de porter les fruits que Dieu attendait de lui, les fleurs et les fruits que Dieu attendait de lui, et comme si ce plan n'était pas conforme, parce que ce plan ne serait pas conforme à notre volonté, alors on se permettrait d'inventer un nouveau plan. On se met donc au-dessus de Dieu. On le voit bien que le péché est une révolte contre Dieu. Encore une fois, il faudra distinguer les degrés de révolte. Ne mettons pas tout sur le même plan, mais il y a de toute façon dans tout péché, y compris un péché qu'on appelle véniel, donc plus léger, qui ne nous coupe pas de la vie surnaturelle, il y a de toute façon cet état d'esprit qui nous fait refuser en partie la volonté de Dieu. Et il y a donc ce refus de ce pourquoi nous étions faits et celui pour qui nous sommes faits. Alors, comprenons déjà cela, c'est déjà beaucoup de bien placer le péché comme un mal moral. Et le mal moral, c'est ce qu'il y a de plus grave, parmi les maux. C'est une privation, on l'a vu, une privation du bien qui est le plus grand des biens qui nous soit donné d'atteindre. En l'occurrence, c'est Dieu. Alors peut-être moins technique, plus descriptif du coup, moins précis aussi, mais plus parlant. Un autre aspect pour comprendre ce qu'est le péché, donc je vous disais, regardons ce que Dieu a fait du péché. Eh bien, il le châtie, il le punit. Chronologiquement, il le punit dans ses anges rebelles à la tête desquels il y a Lucifer, le plus grand des anges, le plus parfait, la plus parfaite des créatures, ne l'oublions pas, parmi les anges. Cet ange, Lucifer, se révolte contre Dieu, ne veut pas le servir, ne veut pas dépendre davantage de Dieu. Et on dit que l'épreuve des anges a été certainement, c'est l'avis des théologiens, même si ce n'est pas une vérité absolue définie au sens strict, il leur a été proposé, il leur a été montré comme dans l'avenir, de recevoir un surcroît de grâce, leur perfection de grâce, si vous voulez, par l'intermédiaire du Verbe incarné, donc après l'incarnation, par les mérites de Jésus-Christ, Verbe incarné, autrement dit, de recevoir un surcroît de grâce et de perfection surnaturelle par l'intermédiaire d'un être qui aurait une nature inférieure à la leur, la nature humaine, j'entends. Évidemment, en tant que nature divine, hein, puisque le Christ a les deux natures, c'était une nature supérieure. Mais parce qu'il y aurait à l'avenir donc cette double nature dans le Verbe incarné, il recevrait cette perfection de grâce par un être qui aurait une nature inférieure à la leur. Et c'est sans doute cette révolte cela qui a provoqué la révolte de Lucifer et de tous les anges qui l'ont suivi, c'est-à-dire ce refus de dépendre d'un être qui avait une nature inférieure à la sienne, à la leur, pour recevoir un surcroît de grâce. D'où ce non serviam, je ne servirai pas, je ne veux pas, je ne servirai pas Dieu, je ne veux pas cet ordre des choses, je me contente de ma perfection telle qu'elle m'a été donnée, c'est-à-dire le plus grand des anges, c'est certes, et du coup, en se révoltant contre ce plan divin, il se coupe de la vie divine radicalement, il ne veut pas de ce plan divin et il s'oppose à Dieu dans cette révolte qui le conduira en enfer. Alors cet enfer est évidemment aussi un point, un étalon de mesure du péché. Nous avons du mal, je le disais tout à l'heure, à comprendre, à définir le péché, en tout cas, à ce qu'il soit, ce soit parlant pour nous. En revanche, lorsqu'on voit que le péché des anges, puis celui d'Adam et Ève, même si ils ont pu le réparer, eux, ont demandé pardon, puisque le péché entraîne l'enfer, c'est que le péché, c'est grave. Parce que l'enfer, ne l'oublions pas, c'est à la fois un châtiment éternel, une privation définitive de Dieu, de ce Dieu qui est la fin de notre être, rappelons-nous. Nous sommes, imaginez ces anges, et puis ces damnés, ces hommes et ces femmes qui sont en enfer, qui savent que leur but, c'est ce Dieu dont ils sont définitivement privés. Et ça, nous avons du mal à le saisir. Toute la méditation de l'enfer que nous pourrons faire à partir du péché est toujours délicate parce que ce qui nous fait peur, ce sont les flammes, l'éternité, certainement, sans doute le pire des tourments, c'est que ce soit un tourment éternel, et puis d'autres aspects, mais qui sont moins parlants pour nous, cette haine généralisée de tous les membres de cet enfer, ce remords qui ronge toute d'année parce qu'il sait que c'est par sa faute qu'il y est, et en même temps qu'il était fait pour autre chose. Il était fait pour le bonheur et il aura le malheur. Alors il se hait d'être la cause même de son malheur, et il hait Dieu parce qu'il sait que ce Dieu pour lequel il était fait, il ne le verra jamais, il ne vivra jamais avec lui. Et puis cette éternité que nous ne pouvons pas comprendre ici-bas, parce que nous sommes dans le temps, que toute chose a une fin ici-bas, et que, de fait, nous n'arrivons pas à penser l'éternité. Alors c'est un concept qu'on a dans notre tête, on sait ce que c'est, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début pour certaines éternités. En tout cas pour nous, il y a eu un début, mais il n'y aura pas de fin. Et puis pourtant, on ne sait pas ce que c'est. Alors on essaye de se donner des images, des sensations, des choses qui pourraient donner. Mais à chaque fois, il faudra se dire, eh ben, on rajoutera autant, ça ne s'arrêtera jamais. Mais on ne sait pas ce que c'est que l'éternité. Alors voilà ce qu'entraîne le péché. C'est donc que c'est grave, cette révolte contre Dieu, ce refus de notre fin. Il le châtie donc dans ses anges, par l'enfer, il le châtie dans nos premiers parents. Nos premiers parents ne sont pas allés en enfer. Adam et Ève ne sont pas tombés immédiatement en enfer, comme sont tombés immédiatement les anges rebelles. Eux ont été chassés du paradis terrestre et ont été promis à la mort physique qui avait été annoncée d'ailleurs par Dieu à Adam et Ève. Et ils ont eu ces châtiments temporels, terrestres, le fait de travailler de façon pénible désormais. Ce n'est pas le fait de travailler qui est le châtiment, c'est le fait de travailler de façon pénible. Pour les femmes, d'enfanter dans la douleur, là où l'enfantement aurait dû être une joie naturelle de la génération, c'est devenu une source de souffrance. Et puis, bien sûr, le plus grave, la perte de la vie de la grâce, la perte de la vie divine. Là encore, le péché se mesure à cette suppression de la vie divine. Et on a du mal à en voir la gravité. Là encore, on est plus marqué par le fait de ne plus vivre dans un paradis, de ne plus avoir des difficultés, l'ignorance, la perte des dons préternaturels, l'ignorance, le fait d'être mortel, d'être passible, de pouvoir souffrir, etc. Pas de science infuse, j'ai dit. Et puis, le fait d'avoir ces passions qui peuvent nous entraîner, on n'a pas la maîtrise comme l'intégrité. C'était le don d'intégrité qui faisait que chez Adam et Ève, il y avait cet ordre, cette harmonie parfaite intérieure qui faisait que s'ils voulaient déclencher une passion, ils le faisaient. S'ils voulaient arrêter une passion, ils le faisaient. C'était selon la raison qui gouvernait tout parfaitement. On retrouve, même si ce n'est pas un don préternaturel chez notre Seigneur Jésus-Christ, mais on retrouve un petit peu la même chose chez notre Seigneur, bien que ce ne soit pas un don préternaturel, lorsqu'il se met en colère, et puis à la fin de sa colère, il n'y a plus rien, il n'y a plus une seule trace, il y a un parfait calme, ce que nous sommes bien incapables de faire nous-mêmes. On le sait bien. Alors, il y a donc tous ces désordres qui nous marquent, le travail pénible, etc., pour les femmes, l'enfantement dans la douleur. Mais en revanche, le plus grave, nous ne le percevons pas, la perte de la vie surnaturelle, la perte de ce don incroyable que Dieu a fait de sa propre vie en nous donnant la grâce. Ce partage de la vie divine, ce Dieu qui est, vous l'avez médité ce matin, tout-puissant dans sa grandeur suprême, a voulu s'abaisser jusqu'à nous donner, à nous qui sommes ses créatures, eh bien, le partage de sa vie propre. Eh bien, évidemment, le péché supprime ce partage, supprime cette amitié, nous fait mourir à cette vie surnaturelle. Mais comme nous continuons à vivre de façon naturelle, et tout fonctionne bien par ailleurs, eh bien, nous ne trouvons pas si terrible la réalité du péché. Lorsque nous péchons, si malheureusement nous le faisons mortellement. Dieu châtie également le péché en la personne de son Fils. C'est l'incarnation puis la rédemption, le sacrifice de la croix, qui va être bien sûr pour nous aussi là, un puissant motif de compréhension, en tout cas de meilleure perception de la gravité du péché. Le Verbe se fait chair et pendant 33 années va vivre humblement subissant un certain nombre de souffrances, de privations, je parle avant même la passion, tout cela en esprit de réparation. De réparation de quoi ? Du péché. C'est bien nos péchés qu'il est venu prendre sur lui pour les expier. Et là encore, et surtout à partir du moment de la passion, évidemment, que l'on connaît, eh bien, il faut la méditer davantage, on ne la connaîtra jamais assez, eh bien, nous mesurons un peu plus la gravité du péché. Cette accumulation incroyable de souffrances, et là, tous les mots, toutes les sortes de mots y passent, physiques, psychologiques, alors pas moraux, justement, de la part du Christ, mais en tout cas, moralement, il porte le poids de nos fautes morales. Oui, c'est pas lui qui les a commises, bien sûr, ces fautes, mais il en porte tout l'aspect, j'allais dire, répugnant, toute la culpabilité, il la ressent. Et ça, c'est le pire des maux à subir pour un innocent, pour un Dieu, pour celui qui, depuis sa conception dans le sein de la Vierge Marie jusqu'à sa mort et à la fin de sa vie terrestre, n'a cessé de dire oui à la volonté de Dieu, n'a cessé de vouloir cette volonté du Père et de tout faire pour vivre conformément, dans sa nature humaine bien sûr, à cette volonté de Dieu. Eh bien lui qui n'a absolument aucun écart de volonté à se reprocher, même si il y a eu cette volonté, elle n'était pas robotisée, elle était volontaire, cette liberté, elle était bien de sa volonté. Mais il y a eu toujours conformité de sa volonté humaine à la volonté divine, puisqu'il avait les deux en notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, celui qui n'a aucun reproche à se faire dans ce domaine, eh bien, a subi ce poids, cette culpabilité de tous nos péchés, de tous les hommes, de tous les temps, et qu'il a expié dans des souffrances atroces jusqu'à la mort. Mais n'oublions pas, dans ces souffrances, celles qui sont psychologiques, justement. Le mal psychologique dont je parlais tout à l'heure, en notre Seigneur Jésus-Christ, a été d'une intensité jamais atteinte et qui ne sera jamais atteinte par d'autres hommes. Beaucoup d'hommes ont souffert, beaucoup d'hommes souffriront certainement dans ce monde. Et il y a des choses atroces que subissent des hommes depuis toujours, que ce soit dans les persécutions, bien sûr, mais n'importe quel... cruauté humaine, malheureusement, est capable de faire souffrir à ses semblables des choses incroyables, et tous les siècles en sont de malheureuses illustrations. Mais notre Seigneur, du fait de la perfection de son humanité, a subi de façon encore plus terrible n'importe quelle de ces souffrances qui ont pu être souffertes par d'autres. Si vous voulez, plus un être est parfait, plus lorsqu'il est atteint contre sa perfection, eh bien plus il souffre. Je donne un exemple facile à comprendre. Nous avons notre toucher dans un autre domaine. Notre toucher, si nous avons une peau qui a été laborieuse, qui a travaillé, etc., nous ne sentons plus de la même façon. Nous avons une sensibilité amoindrie parce que la main ou les pieds ont beaucoup, beaucoup travaillé et se sont donc un petit peu durcis. Il y a moins de sensibilité, ce qui fait qu'on souffrira moins. À l'inverse, si on a un toucher d'une grande sensibilité, vous savez, il y a des métiers où c'est un métier de vérifier le polissage de produits vérifiés que justement par un toucher, par l'homme en fait. C'est intéressant, il y a encore des domaines où la machine n'est pas capable d'être aussi sensible, aussi parfaite pour vérifier le polissage de je ne sais plus quoi. Eh bien, il n'empêche que là, en l'occurrence, la moindre atteinte contre cette sensibilité naturelle sera ressentie durement. Eh bien, il en est de même dans notre Seigneur, c'est que celui qui a une nature humaine parfaite va ressentir la moindre atteinte physique ou psychologique comme une souffrance plus terrible que chez un autre qui aura une conscience endurcie, qui aura un physique déjà abîmé ou autre. Et puis, bien sûr, la nature même de ces souffrances psychologiques, la séparation de la trahison de Judas, la séparation de sa mère, etc., de voir souffrir sa mère, bref, énormément de motifs et de causes de souffrances psychologiques qui seront terribles, et puis surtout cette sensation, cette impression d'être abandonné par son père, comme une espèce de déchirement intérieur, puisqu'il est uni à son père, il ne peut pas en être séparé, et pourtant il y a comme cette, du fait d'être recouvert de nos péchés, de ce poids d'éloignement, parce que le péché nous éloigne de Dieu, et bien de ressentir ce poids d'éloignement fait que, si cela était possible, il serait comme séparé de son père. Et là, on a du mal, on est complètement incompétent pour comprendre cette terrible souffrance qu'il a endurée pendant la Passion. Voilà ce qu'est le péché lorsque Dieu le punit. Il le punit, donc l'enfer, nos premiers parents, notre Seigneur Jésus-Christ dans la Passion. Le péché est donc ce qu'il y a de plus odieux, de plus haïssable. Et il est donc une désobéissance à Dieu, une transgression, et c'est aussi une ingratitude à l'égard de celui qui est notre premier bienfaiteur. C'est aussi une impiété. L'impiété, c'est une injustice vis-à-vis de celui de qui nous devons tout, c'est-à-dire Dieu. Alors nous accumulons dans le péché beaucoup de fautes, beaucoup de choses scandaleuses finalement. Un seul péché, quel qu'il soit encore une fois, même s'il faudra distinguer grave et véniel, mais n'importe quel péché est finalement une désobéissance, une ingratitude, puisque nous oublions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés et nous faisons comme si nous pouvions nous passer de sa volonté, ne pas nous soumettre à sa volonté. Et puis une impiété, parce qu'il n'est pas permis à une microscopique créature de se révolter, de manquer d'honneur. L'impiété, c'est un manquer à l'honneur qui est dû à Dieu. Impiété envers celui qui est aussi, bien sûr, notre Père, non seulement notre Dieu, mais qui est notre Père, c'est-à-dire qui a ce rapport envers nous de père à enfant, tout de bienveillance, tout de bonté. Et c'est aussi, on peut le dire, un manque de fidélité, c'est-à-dire l'image est dans la Sainte Écriture, même s'il est un peu cru, c'est une sorte d'adultère, parce que Dieu est l'époux de nos âmes. Et il exige, dans cette union qu'il a contractée à notre baptême, une fidélité parfaite, une entente, une union exclusive, comprenons-nous, surnaturellement. Et lorsque nous nous révoltons, lorsque nous péchons gravement, eh bien nous rompons cette union surnaturelle que Dieu a signé dans son sang, et ce sang qui était versé sur notre âme lors de notre baptême pour nous purifier, pour nous arracher à la mort du péché originel. Il y a donc là aussi un motif de meilleure compréhension, de se rendre compte que le péché c'est quelque chose de grave. Puis bien sûr, un seul mot pourrait résumer tout cela, c'est une injustice, parce que nous violons ouvertement les droits que Dieu a sur nous. Dieu a tous les droits sur nous, puisqu'il est celui de qui nous avons la vie, celui en qui nous vivons. Si nous vivons actuellement, c'est parce que Dieu nous fait vivre, ne l'oublions pas. Il ne nous a pas donné la vie comme on donne un objet à quelqu'un en disant « fais-en ce que tu veux ». Ou alors, on peut dire qu'il nous la donne constamment, ce qui n'est pas faux. Mais ça n'est pas un don au même sens que nous donnons des choses à des objets, à des personnes. De même que Dieu ne nous a pas donné un corps pour que nous en fassions ce que nous voulions. Nous le savons bien. Alors, les effets de ce péché, et je vais parler plus spécialement du péché mortel. Nous l'avons dit, c'est, on pourrait résumer aussi notre expression comme un crime de lèse-majesté divine. Oui, nous devons tout à Dieu, qui est notre principe, qui est notre créateur et notre sauveur, et puis nous préférons notre volonté. Nous savons que nous sommes comme, je vais prendre une image que Dieu justement n'a pas voulu pour nous, mais comme un esclave vis-à-vis de son maître. Enfin, de même dans l'esclavage, il y avait cette dépendance absolue de l'esclave vis-à-vis de son maître. Eh bien, Dieu n'a pas voulu ce rapport. Il a voulu un rapport de père à enfant, qui n'est pas évidemment la même chose. Mais en tout cas, nous lui devons tout, comme si nous étions des esclaves, en fait. Mais, nous réservons le droit de dire non lorsqu'il nous commande quelque chose. Comme si nous avions ce droit de dire non. Malheureusement, nous en avons le pouvoir. C'est pas la même chose, le droit et le pouvoir. Nous avons le pouvoir de dire non, mais nous n'en avons pas le droit. Ce qui fait que lorsque nous usons de ce pouvoir, c'est sans le droit qui va avec pour que l'acte soit bon. Alors, ce que nous n'avons pas compris dans le péché, dans la révolte envers Dieu, c'est que si nous nous révoltons contre Dieu, si nous refusons d'accomplir sa volonté, nous n'avons pas compris que nous rations l'occasion de nous élever vers Dieu. L'obéissance à Dieu est souvent comprise, comme toute obéissance d'ailleurs, comme un abaissement, une dépendance humiliante, parce que nous serions diminués d'obéir. Ça, c'est la conception moderne, très actuelle, de la notion de liberté et d'obéissance. On se considère déchu quand on dépend de quelqu'un dans notre agir. Et, paradoxalement, nous sommes volontiers esclaves, obéissants, je vais garder le même mot, de nos propres passions, ou de choses qui sont des créatures, parfois même, inférieures à nous. Celui qui est dépendant de la boisson est complètement esclave de l'alcool, de la drogue, qui est quand même que de la matière. Mais pourtant, il ne se sent pas déchu. Il a l'impression de faire ce qu'il veut, même si il sent bien une dépendance. Mais ça, c'est une dépendance qu'il accepte. Il ne faut pas oublier que obéir, se mettre au niveau de la volonté de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre, enfin de quelqu'un d'autre, c'est ça l'obéissance. C'est se mettre au niveau de celui à qui on obéit. Se mettre au niveau de la volonté de celui à qui on obéit. Or, quand on obéit à Dieu, eh bien on se met au rang de Dieu. On se met dans le vouloir de Dieu. Et donc, pour un homme, c'est évidemment une surélévation. Vouloir ce que Dieu veut, c'est comme vouloir avec Dieu. C'est rentrer dans le vouloir divin. Le vouloir divin, c'est l'amour de Dieu. Amour et volonté, c'est la même chose. C'est aimer ce bien de Dieu. Donc, lorsqu'on obéit à Dieu, qu'on fait volontairement ce qu'il nous commande de faire, nous aimons Dieu. Voilà pourquoi on parle de cet amour de Dieu qui s'opère, qui se manifeste dans l'obéissance à sa volonté. Et donc, ce n'est rien comprendre à l'obéissance que de croire que c'est perdre sa liberté, c'est être déchu de son autonomie, ou je ne sais quelle phrase, enfin, slogan moderne du même acabit. Il y a au contraire une grande élévation à obéir. Et c'est pour cela que Notre-Dame l'a parfaitement compris. Elle a toujours manifesté cette parfaite obéissance envers Dieu. Et en ce sens-là, par cette voie-là, elle s'est élevée de plus en plus au maximum des capacités surnaturelles que Dieu lui donnait. Et cet abaissement qui semble, qui est apparent, de se soumettre à la volonté d'un autre est en fait, dès lors que celui à qui on obéit est plus noble que nous, eh bien est en fait une élévation. Mais l'inverse est équivalent. Si l'on obéit à nos propres passions, ben on se rabaisse, puisqu'on obéit à du sensible, à du passionnel. Si on obéit à de la matière, si on est attiré par l'argent, par l'alcool, par la drogue, on est forcément, on est dépendant de choses qui sont en plus, même pas des personnes, mais des choses, des objets. Il y a donc une identification, une mise à niveau, si on peut dire, de notre volonté à celle qui nous meut, qui nous fait bouger, qui nous attire dans l'agir. Et si c'est Dieu, eh bien, c'est bien sûr une grande perfection supplémentaire pour notre agir et pour notre être, lorsque nous obéissons à Dieu, donc. Eh bien, par le péché grave, nous prétendons être autonomes, nous prétendons dire « je ne ferai pas cela », je ferai ce que je veux, et du coup, nous régressons, nous nous abaissons, nous tombons dans une dépendance véritable, celle du péché. Du côté de l'homme, ce péché, il faut le distinguer dans la vie ici-bas, et dans la vie éternelle. En cette vie, nous l'avons dit, je vais aller vite, le péché mortel brise la vie de la grâce, qui était la présence permanente de la Sainte Trinité tout entière dans notre âme. Et cette présence vivante qui enrichit l'âme des dons divins, de la vie divine, et qui rend nos actions méritoires, c'est-à-dire riches d'une valeur surnaturelle, et cette valeur surnaturelle donne un droit à une récompense, qu'on appelle un mérite, eh bien tout cela est supprimé par le péché mortel. C'est une destruction radicale et immédiate qui s'opère de toute cette vie trinitaire. Dieu se trouve chassé de l'âme qu'il habitait. Et en même temps, cet agir humain qui était en collaboration avec la grâce de Dieu et donc source de mérite se retrouve laissé à son propre état, c'est-à-dire sa propre nature, et devient ainsi insipide, si on peut dire, surnaturellement parlant, c'est-à-dire qu'il n'est sans aucune capacité d'être récompensé. Alors attention, ne commettons pas l'erreur de Luther, ce n'est pas parce que si nous ne sommes plus en état de grâce, nos actes ne sont pas forcément des péchés. Le péché, c'est toujours la même définition, c'est une révolte contre la volonté de Dieu dans un acte volontaire. Donc celui qui n'est plus en état de grâce ne commet pas en permanence des péchés. C'est une erreur qui... le protestantisme a développé, mais qui s'est multiplié et peut-être encore objet d'erreur. Enfin, qui peut être encore cru comme quelque chose de vrai. Et c'est une erreur. Alors tout cela est supprimé. Le péché mortel va chasser Dieu de notre âme et il va en plus, s'il se multiplie, enraciner l'homme dans cet éloignement de Dieu. Et ce qu'il y a de terrible dans le péché, c'est que la multiplication du péché nous rend le péché plus facile et enracine cette habitude de faire le mal. Heureusement, la vertu, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. La vertu, c'est la bonne habitude de faire le bien. Alors, les deux fonctionnent de la même façon, même si c'est de façon inverse. Plus on fait le bien, plus le bien est facile à faire, dans un domaine précis, dans une vertu précise. Mais, pour le péché, c'est aussi le même mécanisme, si je puis dire. Plus on fait le mal dans un domaine précis, plus on a de facilité à le faire et finalement de certains plaisirs à le faire. Alors il y a une grande distinction entre les deux, c'est pas parfaitement symétrique, et heureusement, c'est lorsque l'on fait du bien, donc dans telle vertu, on améliore même un petit peu, même si on ne travaille pas une vertu, si on travaille une vertu précise, la voisine n'est pas forcément travaillée, parce qu'on a du mal à nous corriger ou à faire le bien dans tous les domaines, eh bien, toutes les vertus surnaturelles, lorsqu'on est en état de grâce, fonctionnent et croissent. On dit comme les cinq doigts de la main, un enfant qui grandit, évidemment, les cinq doigts poussent en même temps. Eh bien, donc nous faisons un effort dans un des domaines, et tout le reste progresse quand même, un petit peu. Alors que, heureusement, pour le péché, les vices ne s'enracinent que là où nous commettons des fautes, évidemment, puisque ce sont des maux, des privations de bien. Bon, je n'y reviens pas. Alors du coup, le péché mortel rend esclave véritablement, parce que quand il y a le vice, quand il y a cet enracinement dans le mal, eh bien cela décourage. Et ça, c'est la signature du démon, le découragement. C'est ce à quoi il veut atteindre, ce qu'il veut atteindre. Ce qu'il n'est jamais satisfait tant qu'il n'a pas inoculé le découragement dans l'âme. C'est pour ça qu'il est prêt à tous les retards, à toutes les... il est prêt à ce que l'homme se relève, mais il voudra atteindre son point culminant de malice. C'est lorsqu'il nous aura découragés. Et une retraite doit être particulièrement l'occasion d'effacer, d'évacuer ces découragements qui sont, qu'on le veuille ou non, toujours un petit peu le danger numéro un de nos vies spirituelles. Il y a toujours, à un moment ou un autre, dans notre vie, des périodes de découragement parce que on n'arrive pas à s'en sortir, parce qu'il y a des malheurs dans notre vie, parce que tel défaut, on ne s'en sépare pas. Eh bien, n'oublions pas que si nous laissons une oreille attentive à ce découragement, nous faisons rentrer le terminus, le couronnement de l'action du démon qui nous a peut-être fait tomber, peut-être gravement, mais ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, ce serait le découragement. Et ça, pour sortir du découragement, eh bien, il faut bien sûr la grâce de Dieu, mais des grâces qui peuvent être parfois refusées, justement. Et donc c'est la fermeture parfois de l'âme à la grâce de Dieu. Donc c'est là que le démon triomphe. Heureusement, dans une retraite justement, on vient évacuer aussi toutes ces sources de découragement. Et puis dans la vie éternelle, si malheureusement nous mourions dans cet état de privation de la vie divine, ben c'est l'enfer, je n'y reviens pas. Cette peine, cette double peine, la peine qu'on dit du dan, D-A-M, la peine de la damnation, c'est-à-dire de la privation définitive de la vie de Dieu. On ne verra jamais Dieu pour lequel nous étions faits. Et en même temps, on se sent attiré par celui pour qui nous étions faits et repoussé parce qu'il y a cette haine, cette volonté qui s'est définitivement enracinée en opposition avec Dieu. Et donc, il y a une espèce de conflit intérieur dont nous sommes la cause et qui est le châtiment le plus terrible. L'autre peine, qui nous fait le plus peur certainement, c'est la peine du feu. Ce feu de l'enfer qui est bien réel, qui n'est pas une imagination, une image, une métaphore. C'est un feu réel qui brûlera après la résurrection de la chair, nos corps, sans les consumer. On sait très bien que lorsque nous nous brûlons un petit peu sur une casserole, sur un feu, nous n'avons... qu'une hâte, c'est d'éteindre la douleur que nous aurions ressentie pendant une demi-seconde, même si elle peut se prolonger évidemment s'il y a eu brûlure. Mais ça, eh bien, ce ne sera pas une demi-seconde, ce sera une éternité entière. Donc il faut se dire que c'est cela la conséquence du péché grave. Et c'est donc quelque chose de terrible. Alors pour terminer... je voudrais montrer que même, je vous ai beaucoup parlé du péché grave, même le péché véniel doit être pour nous repousser. Et c'est souvent l'intérêt de ces retraites, c'est justement, si nous ne péchons plus gravement, si nous péchons gravement, eh bien de reprendre des forces. Si nous ne péchons plus gravement, ou de façon rarissime, eh bien, c'est d'attaquer de front les sources, les causes des péchés véniels. Et je voudrais vous citer sainte Thérèse d'Avila, dans son Chemin de la perfection, chapitre 41, qui résume bien ce avec quoi je voudrais terminer, de dire que le péché véniel, finalement, ce n'est pas un péché grave, ce qui, dans les termes, est exact, c'est-à-dire ce n'est pas un péché qui nous coupe de la vie divine, eh bien, parce qu'il ne serait pas un péché grave, puisque ce n'est pas grave, ça n'est pas grave, comme on le dit dans notre langue française, et donc ça n'a pas d'importance. Alors sainte Thérèse d'Avila dit ceci, « C'est comme si l'on disait, « Seigneur, bien que cette action vous déplaise, je ne laisserai pas de la faire. » Ça veut dire « je ne manquerai pas de la faire. » « Je n'ignore pas que vous la voyez, je sais parfaitement que vous ne la voulez pas, mais j'aime mieux suivre ma fantaisie et mon attrait que votre volonté. » Et elle ajoute, « Et ce serait peu de choses que d'agir de la sorte. Pour moi, si légère que soit la faute en elle-même, je trouve au contraire que c'est grave et très grave. » Voilà ce qu'il faut retenir du péché véniel. C'est vrai que ce n'est pas grave au sens où ça coupe, ça brise la vie divine, mais c'est grave au sens où on se permet de dire d'une certaine façon non à Dieu, de qui nous avons tout et vers lequel nous devons tendre. Et nous ne pouvons tendre vers Dieu qu'en accomplissant sa propre volonté, sa volonté à lui. D'autre part, le péché véniel multiplie les obstacles à la grâce. Et ça n'est pas rien. Ça n'est pas 100 péchés véniels qui vont équivaloir à un péché mortel, ça n'est pas cela. Mais 100 péchés véniels, ça obscurcit notre âme, ça donne des obstacles. Et d'autre part, il faudra réparer tous ces péchés véniels. Il faudra les expier. Et dans la vie après la mort, c'est le purgatoire, justement. Alors nous savons bien que nous pouvons expier ces fautes véniels ici-bas, mais comme nous les multiplions parfois, parce que justement ce n'est pas grave, eh bien il faut bien se dire qu'il y aura peut-être une note assez salée à régler avant de mourir, ou si nous ne l'avons pas fait, après notre mort. Alors souvenons-nous, pour résumer, de ce cri qui est le nom même de Saint Michel Archange, en hébreu, Michael, cela veut dire « qui est comme Dieu ?» C'est une question. Eh bien, souvenons-nous, quelle est la créature qui peut nous donner autant d'amour que Dieu nous a donné ? Quelle est la créature qui peut vouloir autant le bien pour nous que Dieu veut le bien pour nous ? Nous répondrons bien sûr « personne ». Mais ça, c'est en théorie. Cette petite question-réponse, si nous la faisons comme ça dans notre tête, nous sommes d'accord sur personne. Et pourtant, nous répondons bien souvent autrement à Dieu, et nous lui choisissons, nous lui préférons bien souvent telle créature, tel objet, telle richesse, tel honneur, tel plaisir, tout cela étant justement l'oubli de cette belle interrogation qui est résumée dans le nom de Michel, qui est comme Dieu. Alors ce sont justement ces réponses qu'il faut changer. Vous êtes ici pour cela. Il faut la grâce de Dieu pour pouvoir désormais dire oui à Dieu. Dire oui, je vous servirai. Serviam et non pas non serviam. Et même si notre amour s'est trop longtemps porté sur des créatures qui nous ont éloignés de Dieu, eh bien, et qui nous ont donné l'illusion d'être maître de nous-mêmes, eh bien, sachons nous mettre à l'école de notre Seigneur dans tous les domaines, domaine du chemin de la croix, bien sûr, puisque nous savons que c'est le chemin qui nous sauvera, c'est le mystère de la rédemption, mais aussi, bien sûr, mettons-nous bien dans cet esprit de revenir à Dieu en lui promettant, avec cette fidélité qu'il attend de nous, eh bien, de le suivre, même si le chemin peut nous paraître parfois difficile. Nous allons à la chapelle, à la grande chapelle, pour méditer un petit peu sur ces quelques vérités. Je commencerai à vous guider au début, et puis après, je vous laisserai terminer comme vous l'entendrez.